Eh bien, je suis très content de t'accueillir, Jean-Robert. Jean-Robert Pitt est un grand spécialiste du vin. Nous avons la chance d'avoir à l'Institut des vignes très anciennes et nous allons discuter tous les deux.
Avec plaisir.
Des États-Unis et de la France et de la Vigna.
Avec plaisir.
Alors Jean-Robert, parle-nous du phylloxéra, de rapport avec les États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le phylloxéra ?
Le phylloxéra, c'est un petit puceron épouvantable. Son nom scientifique, Phylloxera vastatrix, c'est-à-dire phylloxéra qui aime le bois, vastatrix, dévastateur. Et il a réellement été effroyable pour tout le vignoble français, européen et mondial. Donc ce puceron est arrivé d'Amérique, où il vivait sur des vignes, et qu'on découvre par hasard en 1863, dans la Crau. Quand on a découvert ce que c'était, ça a été l'affolement, parce qu'il y avait eu déjà pas mal de vignes dans le Midi qui commençaient à mourir sans qu'on sache pourquoi. Et on découvre donc, quelques années plus tard, ce puceron. Et là, c'est un drame, parce qu'on ne sait pas quoi faire pour l'éradiquer.
Donc ce phylloxéra, il a détruit tout le vignoble français ?
Alors, à quelques exceptions près, les régions sableuses, et que le phylloxéra ne peut pas vivre dans le sable, parce que le phylloxéra creuse des galeries, et avec le sable, ça s'effondre, donc il est coincé. Puis alors, il y a une région qui n'a pas été attaquée, c'est l'Île-de-France. Plus grand vignoble français jusqu'en 1900, qui donne des vins médiocres, mais ce vignoble a été protégé par la Beauce, parce qu'entre le Val-de-Loire, où il y a beaucoup de vignes, et l'Île-de-France, il y a 70 km d'une plaine qu'on appelle la Beauce, qui produit du blé, et où il n'y a pas de vignes du tout.
Et donc le phylloxéra.
Et donc le phylloxéra. Bah non, parce qu'il n'avait pas. Le phylloxéra ne vit que sur la vigne. Et donc, comme il n'y avait pas de vigne, le phylloxéra s'est trouvé bloqué par la Beauce.
Alors, est-ce qu'on boit beaucoup de vin?
Oui, on boit. Au 19e siècle, on boit énormément de vin. La production s'est beaucoup, beaucoup développée avant l'arrivée du phylloxéra. Et on a pu vendre du vin dans toute la France. Et on a bu du vin dans toute la France, qui n'était pas forcément très bon. Mais on en a bu beaucoup, puisqu'on estime, donc, au moment où arrive le phylloxéra, qu'on boit en moyenne 130 litres de vin par personne et par an, tout français confondu, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants.
Et bébé
et vieillard. Donc, ce qui veut dire que, en gros, on boit un litre de vin par personne et par jour. Il y a une grande amélioration de la qualité du vin dans les vignobles commerciaux, qui sont donc le Bordelais, qui sont la région de Cognac où le vin est distillé après. Donc, le vin n'est pas très très bon à Cognac, mais une fois distillé et vieilli, ça donne une eau de vie merveilleuse qui se vend dans le monde entier. En Champagne et en Bourgogne, qui sont les grands vignobles réputés qui exportent des grands vins, des très grands crus qui s'arrachent à prix d'or dès cette époque.
Donc le phylloxéra arrive au pire moment, à un moment où justement tout s'améliore, la quantité et la qualité.
Oui, et où les Français aiment le vin et où des pays non producteurs d'Europe du Nord aiment les vins français et les achètent. Et c'est la base d'une économie très très prospère dans les grands vignobles commerciaux.
Alors dis-moi, comment on s'en est sorti de cette catastrophe ?
On a trouvé qu'un des moyens de l'éradiquer, c'était de noyer les vignes sous l'eau. Ça s'est fait beaucoup en Languedoc, dans la plaine. Et donc, là, le phylloxéra ne résiste pas. Mais évidemment, ça a des conséquences sur la qualité du vin du millésime suivant. Un autre moyen chimique a été d'injecter aux pales, sur chaque pied de vigne, du sulfure de carbone, qui est un produit assez effroyable, qui ne va pas être très bon pour la santé. Alors, avant de parler du greffage, n'oublions pas qu'on est dans un pays chrétien et qu'on a essayé d'appeler les grâces du ciel pour éradiquer ce phylloxéra. Et donc, on priait dans les églises, comme il y a toujours eu des prières autour de l'agriculture, ce qu'on appelait les rogations.
Ça a marché ?
Ben, ça a marché, heureusement. C'est le moment où on a trouvé un moyen beaucoup plus efficace de guérir le phylloxéra, qui est le greffage.
En provenance des États-Unis.
Alors, c'est là aussi, curieusement, le malheur est venu des États-Unis. La méthode salvatrice est venue aussi des États-Unis. C'est le greffage, précisément, sur des vignes américaines, donc diverses sortes de vitis, donc des vignes américaines sauvages, mais qui, elles, sont insensibles au phylloxéra sur les racines. Et donc, on a imaginé le greffage, c'est-à-dire une souche américaine avec un greffon, donc des cépages de Vitis vinifera cultivés en France depuis longtemps. Et c'est ce qui a permis de sauver la viticulture. Et donc, on a replanté tout le vignoble français qui avait été dévasté par le phylloxéra avec cette technique du greffage, qui est une technique extraordinaire.
Jean-Robert, parle-moi des rapports entre le vignoble français et le vignoble d'Amérique du Nord, des États-Unis.
Quand arrivent les pionniers, on s'aperçoit que le climat californien convient admirablement, surtout sur les hauteurs, dans la vallée de la Sonoma ou la vallée de la Napa, et donc il y a des pionniers européens, français ou italiens qui disent mais on va pouvoir planter de la vigne parce que ça pousse très très bien. Et donc on a des Français comme Paul Masson, comme de la Tour, qui viennent soit de Bourgogne, soit du Périgord, soit de Bordeaux, soit de Champagne, et qui produisent des vins qui se vendent non seulement en Californie, mais qui dès que le chemin de fer permet de traverser les États-Unis et de transporter des produits à bon marché, sont vendus en Nouvelle-Angleterre, dans les grandes villes de la mégalopolis. Arrive un autre événement important pour l'histoire de ce vignoble américain et de sa relation avec les planteurs européens, français en particulier, c'est la prohibition américaine, qui interdit non seulement la production d'alcool, enfin d'eau de vie distillée, mais aussi de vin, donc dans les années 20 et 30. Et à ce moment-là, ces viticulteurs qui sont de tradition catholique se débrouillent pour obtenir du gouvernement une exception, c'est-à-dire le droit de produire du vin et de le vendre à destination de l'Église pour les besoins de la messe.
Alors, nous sommes au XXIe siècle. Quelle est la spécificité du consommateur américain par rapport au consommateur français dans leur goût, leurs moyens financiers, leurs habitudes de consommation?
Boire du vin, c'est chic aux États-Unis. Et donc, la consommation augmente, puisque les Américains... en France, ça a baissé considérablement. On est à 30 et quelques litres par personne et par an, c'est-à-dire rien du tout par rapport au 19e siècle. Aux États-Unis, on est à 10 litres de vin par personne et par an, et c'est en progrès. En quantité, l'Amérique en passe de devenir le premier consommateur de vin au monde. Aujourd'hui, il y a quand même, c'est un très gros marché pour les vignobles de qualité en France, pas pour le vin ordinaire, hein, mais pour les vignobles de qualité, c'est un très très gros marché. Et puis, il faut dire aussi que par rapport au goût français, les vins américains étaient jusqu'à une date récente, c'est en train de changer très vite, étaient des vins assez concentrés, fort. Très forts en alcool, qui est un goût très différent sur le plan des papilles, parce que les nourritures traditionnelles et populaires américaines, comme le hamburger, le ketchup, le Worcester sauce, le Coca-Cola, etc., ben, ce sont des saveurs fortes. Et donc les vins étaient adaptés à ces palais. Et il y a eu un critique qui maintenant est à la retraite, Robert Parker, qui a eu un très très grand rôle, parce que non seulement il portait les jugements dans ses magazines et ses médias sur les vins américains, mais aussi sur les vins du monde entier. Et il a fait les tournées en France, et il publiait des listes de vins notés, et il donnait les meilleures notes aux vins français qui ressemblaient le plus aux vins californiens. Ce qui fait qu'un certain nombre de propriétaires, et ça a été catastrophique à Bordeaux, ont dit on va faire des vins à la manière américaine pour plaire aux Américains, comme ça on pourra leur vendre.
Eh bien Jean-Robert, merci beaucoup, je te garantis que j'ai appris énormément de choses. Moi, le ch'timi du nord de la France, qui n'a bu essentiellement que de la bière pendant toute sa jeunesse, je te remercie beaucoup pour cette ouverture culturelle.
Non, c'est moi qui te remercie de m'avoir permis de creuser un petit peu cette question de la relation franco-américaine. La conclusion, c'est qu'il faut que nous buvions ensemble avec les Américains, c'est le meilleur moyen de faire la paix. Les gens qui boivent ensemble et qui mangent ensemble ne se font pas la guerre.